Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Brassard et aujourd'hui j'ai un invité qui est Mathias Bonnel. Salut.
Salut Jean-Michel.
Et donc il est membre du comité para. Et puis pour ceux qui écoutent chronologiquement le podcast, il a fait une conférence il y a 2-3 épisodes. C'était une conférence sur le serveur Discord du comité para sur les virus. Et il vient encore nous parler des virus parce qu'on est en pleine période de confinement. Mais donc voilà, je me suis dit qu'on allait, je vais quand même lui demander qu'il se représente parce qu'il y a des gens qui découvrent les épisodes dans le désordre, donc on ne peut pas tabler sur le fait qu'ils ont écouté ta conférence. Mais si jamais ils aiment bien cet épisode, ils doivent aller 3 épisodes en arrière et aller voir ta conférence. Alors qui es-tu? Rappelle-nous.
Donc moi je m'appelle Mathias Bonnel, je suis doctorant en microbiologie à l'Université libre de Bruxelles. Donc je travaille sur des bactéries de rivière. Et moi je suis français, je viens de Marseille même si ça ne s'entend pas beaucoup. Voilà, et donc plutôt spécialiste en microbiologie, mais je m'intéresse pas seulement aux bactéries, à l'ensemble de la microbiologie et de la biologie en général, parce que je suis aussi contributeur régulier sur Wikipédia. Je traduis notamment des articles anglais sur des notions de biologie qui manquent en français ou qui ne sont pas assez étayées.
Voilà. Ça va, tu survis à Wikipédia et à ces mythiques guerres d'édition.
Oui, oui. Alors, en général, sur les sujets que je traite, il n'y a pas beaucoup de guerres d'édition. C'est surtout des choses qui, en français, n'ont pas été beaucoup étayées ou juste quelques lignes. Et donc, je préfère essayer d'étoffer un peu ce type de page parce que je pense qu'elles sont intéressantes et importantes, surtout pour les étudiants en biologie qui, comme moi, parfois cherchaient tel mot dans un article et qui ne trouvaient pas de description détaillée. Je pense que ça peut servir à des personnes comme ça, par exemple.
Ouais, moi, je reçois encore régulièrement des messages de sceptiques qui me posent des questions sur Wikipédia, qui ne savent pas trop bien comment ça marche. C'est assez marrant. Il faudra une fois faire un épisode sur
oui,
Wikipédia.
Tout à fait.
Les guerres d'édition, enfin moi j'en ai participé à certains.
Oui, j'en ai vu récemment aussi. Notamment.
Ça peut être assez sanglant. Mais c'est marrant ça. Oui, c'est vrai, tu viens de Marseille et t'as pas un accent si fort.
Ma famille aussi me dit que depuis que ça fait maintenant 3 ans et demi que je vis en Belgique et peut-être qu'à force, mon accent s'est un peu tassé, je n'en sais rien.
Ah, c'est marrant ça. Très bien, mais c'est pas de tout ça qu'on va parler.
Non.
C'était, comme je l'ai dit, de virus. Et en fait, tu t'es penché sur l'anthroposophie, enfin un article précis de l'anthroposophie qui est publié dans une de leurs publications.
C'est ça.
Tu peux nous dire comment tu es venu à te pencher sur cet article finalement?
Donc en fait, pour remettre un peu dans le contexte, l'anthroposophie, je connais vraiment depuis pas très longtemps, depuis à peu près 1 an. Et donc, à la base, j'y ai été, entre guillemets, initié. Enfin, j'en ai entendu parler par la tante de ma conjointe qui avait mis ses enfants dans une école Steiner près de Namur et qui les a vite enlevés quand elle s'est rendue compte de ce que c'était, en fait, et qui, depuis, essaie de se renseigner et de militer contre l'anthroposophie et surtout les dérives qu'elle engendre. Et puis après, par notamment l'interview de Grégoire Parra de La Tronche en Biais et puis d'autres choses comme sur le podcast, j'ai un peu plus compris ce que c'était que l'anthroposophie. Et donc, pendant le confinement, elle m'a envoyé ce numéro 4 de la revue Nouvelle de la vie anthroposophique qui est éditée en Suisse, où il y avait donc quelques pages qui faisaient le lien entre, donc l'article en entier s'appelle « Le coronavirus et ses arrière-plans ». Et donc, en lisant cet article, je me suis dit qu'il y avait peut-être un billet à faire pour le blog du comité para. Puis finalement, Jérémy m'a proposé d'en faire un podcast. Donc voilà la raison pour laquelle je suis ici.
Ouais, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment l'actualité.
Oui,
l'actualité
c'est ça, c'est
brûlante.
Ouais. Et puis ça rebondissait un peu aussi avec à la fois la conférence que je faisais et puis mon domaine de recherche et de compétences parce que dans le texte, comme on va le voir dans les minutes qui suivent, ils font beaucoup de rapprochements entre certaines notions qui sont dans leur doctrine et puis certaines notions qui touchent plus à la microbiologie parce qu'ils parlent des virus et des bacilles.
Voilà. Oui, c'est vrai que... Enfin, moi, je l'avais raconté dans un autre épisode du podcast. Moi, je connais l'anthroposophie depuis très longtemps, mais depuis le début des années 1990, 1990 en français de France. Mais c'est marrant comme Grégoire Perra a mis ça sur le devant de l'actualité sceptique de manière assez intense maintenant. Et c'est vrai que je suis leur... enfin certains, enfin la page Facebook de l'association Entrepreneuse Française. Mais c'est vrai qu'ils postent plein de trucs qui sont des mélanges bizarres de néo-occultisme et de science.
Tout à
Enfin,
fait.
de... enfin quand tu m'as envoyé l'article dont tu vas parler, tu dis mais enfin tout le document d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que l'article, enfin, j'ai un peu survolé le reste aussi, mais c'est un mélange d'idées complètement, enfin ouais c'est ça, de jargon.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment des phrases, même pour moi, enfin, je trouvais ça complètement incompréhensible. Peut-être qu'on en citera une ou deux tout à l'heure. Et puis, c'est exactement ce que tu dis. C'est un mélange de plusieurs notions, de plusieurs disciplines qui, a priori, n'ont rien à voir entre elles. Mais la façon dont ils les mettent en relation, c'est pas clair et c'est basé sur pas grand-chose, en fait. C'est un peu ça que je trouve aussi fascinant. C'est qu'il y a certaines affirmations ou certaines parties de phrases, si on les prend telles quelles, on pourrait se dire, c'est super intéressant. Ils ont fait des recherches derrière. C'est quand même pas basé sur n'importe quoi. Et puis, quand on lit la suite, on se dit, ah oui, mais là, quand même, ça pose problème, quoi.
Oui, et puis j'ai l'impression que quand tu les lis, qu'ils se pensent comme faisant de la science et que finalement, ils ont l'impression qu'ils sont des novateurs en science ou,
Oui, c'est ça.
alors qu'ils sont dans une sorte de bulle à eux où ils font un truc assez bizarroïde.
Bah, d'ailleurs, quand
Mais...
on regarde les références qu'ils citent, c'est quasiment que des textes à eux, quoi. Enfin, liés de près ou de loin à ce que Steiner a écrit, finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres sources, quoi.
Oui, donc le premier point que tu voulais aborder, c'est qu'il parle du terme de bacille. Tu peux nous en parler?
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est dès la première phrase, donc ils disent les bacilles sont des cellules munies d'une paroi cellulaire, d'une structure interne et d'un métabolisme. Et juste après, ils disent au temps de Rudolf Steiner, donc pour rappel, celui qui a fait le fondement de l'anthroposophie, donc au temps de Rudolf Steiner, les virus venaient d'être découverts mais pas décrits dans le détail. Et ils se disent juste après, on peut estimer qu'il a englobé, pardon, les virus sous le terme de bacille. Alors ça, déjà, ça pose un problème pour toute la suite de l'article, parce que toute la suite de l'article est basée là-dessus. Un bacille, qu'est-ce que c'est? C'est un type de bactérie. Donc les bactéries, il y en a de plusieurs formes, de plusieurs tailles. En général, on les classe en quatre grandes familles au niveau de la forme. Et donc les bacilles, c'est un de ces types de formes. Donc bacille, c'est en gros des bactéries en forme de bâtonnet. Il en existe de plein d'espèces différentes, par exemple la fameuse Escherichia coli que je pense la plupart des gens connaissent, mais il y a aussi le bacille du choléra qui cause le choléra, le bacille de la tuberculose, etc. Et donc, une bactérie, ça n'a rien à voir avec un virus, c'est deux organismes qui sont complètement différents. Et donc, comme toute la suite est basée sur le postulat que Steiner a englobé les virus sous le terme de bacille, déjà pour moi, ça pose un premier problème.
Oui, c'est vrai que c'est bien bizarroïde comme approche, mais bon. Ok. Et alors, ton point suivant, sur le plan matériel, oui, tu faisais une citation. Sur le plan matériel, les maladies liées aux bacilles et à la tuberculose ont une origine semblable à celle de l'actuel matérialisme de l'entendement sur le plan de l'âme et l'esprit.
Voilà, donc déjà là, la dernière partie de la phrase, je comprends absolument pas ce que ça veut dire, mais rien que le début, quand on dit maladie liée au bacille et à la tuberculose, pour moi, ça a autant de sens que de dire on parle de maladie liée au virus et à la grippe. Non, il y a d'un côté l'agent pathogène qui cause la maladie et de l'autre la maladie. Donc la tuberculose, c'est une des multiples sortes de maladies qui sont causées par des bacilles. Il y en a d'autres, comme la choléra, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est déjà là, pour moi, il y a une espèce de confusion et on voit que l'autrice ici en l'occurrence, elle n'est pas allée chercher bien loin. Elle sait que la tuberculose, elle devait, je pense, savoir que la tuberculose était causée par un bacille. Donc elle s'est dit, voilà, je vais mettre les deux ensemble. Mais pour moi, déjà, ça n'a pas beaucoup de sens de mettre les deux ensemble comme ça.
Mais ouais, c'est quoi finalement la thèse de l'article, si tu devrais en avoir, ou l'hypothèse de l'article ou...
C'est d'essayer, donc on va revenir dans le détail après, c'est d'essayer de rendre compte du fait que les épidémies comme celle du coronavirus, ce sont en fait des manifestations, selon les anthroposophes, de tous les maux de l'humanité et surtout passés, et aussi des souffrances faites aux animaux qui sont matérialisées sous forme d'agents pathogènes qui causent des maladies.
Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, ok. Oui, enfin, c'est tellement. Le style est tellement bizarre, quoi. Ouais, c'est. Ok, très bien. Alors, parle-nous de ton point suivant. Qu'est-ce que tu nous racontes, alors?
Alors, donc, ils disent, là, par exemple, quand j'ai lu le début de cette phrase, je me suis dit, c'est super intéressant. Ils disent, la découverte d'un bacille dans le cas d'une maladie est en fait extrêmement importante pour la flore et la faune intestinale de l'organisme humain. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand quelqu'un va se présenter chez un médecin ou à l'hôpital avec une maladie qui, a priori, est liée, par exemple, aux intestins, une colique ou ce genre de choses, on va essayer de prendre des échantillons de sel et de voir si là-dedans, il n'y a pas des bactéries qui ne sont pas censées être là et qui pourraient éventuellement causer la maladie. Donc ça, effectivement, c'est un point tout à fait intéressant et j'étais tout à fait d'accord avec cette phrase-là. Le problème, c'est la suite de la phrase qui dit « Pour le fait d'être malade, cela n'a pas plus de signification qu'un signe de reconnaissance, de point. Quand telle ou telle pathologie est sous-jacente, c'est que l'organisme humain offre la possibilité que telles ou telles formes de ces petites bêtes ou plantes se développent sur un tel substrat, mais cela ne va pas plus loin. » Donc pour moi, comment je l'interprète, cela supposerait qu'il y a des moments où on offrirait cette possibilité et d'autres non. Mais alors, du coup, pour moi, on pourrait faire en sorte de devenir tout le temps invulnérable aux maladies si on suit ce raisonnement, en ne permettant pas justement cette possibilité de développement. Et ça repose absolument sur rien, mais si jamais ils ont la recette magique, je pense que les scientifiques sont preneurs.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais bah, on imagine que c'est le genre de choses qui peut. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas des. De toute façon, la doctrine steinérienne est tellement compliquée que même en lui moi-même quelques bouquins sur le sujet. Pff, en plus, comme tout est dans le même style,
Ouais, c'est confus.
faut vraiment. Enfin, voilà. De toute façon, le style néo-occultiste. Mais on pourrait imaginer ouais, qu'ils imaginent qu'on puisse contrôler. Enfin, comment dire. Oui, c'est ça. Un peu avoir un contrôle sur les maladies ou avec de la pensée positive ou des
C'est
choses dans
ça,
ce
c'est un
style-là.
peu ça qu'ils évoquent dans le corps de cet article, en effet.
Ok. Alors la phrase suivante qui t'intéresse, c'est car la constitution corporelle est influencée par la vie psychospirituelle personnelle et autres mesures.
Oui, c'est ça. Donc pour moi, ça demande un minimum de preuves. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est prendre un groupe de personnes n'ayant pas de vie spirituelle particulière, et puis un autre groupe dans lequel les personnes ils pratiquent par exemple l'anthroposophie, et puis il faudrait que dans ces deux groupes, les personnes soient atteintes d'une maladie bénigne, par exemple un rhume, et qu'on voit si le deuxième groupe est significativement moins atteint que le premier, avec les conditions nécessaires, donc double aveugle, cohorte assez grande, enfin, ce qu'on a l'habitude de présenter quand on fait des expériences dans le cadre du scepticisme de la science, quoi. Et à mon avis, si on fait ça, je doute qu'on obtienne des résultats qui aillent dans le sens de cette affirmation, mais pourquoi pas, il faudrait tester pour en être sûr, mais en tout cas, c'est une affirmation qui me paraît un peu gratuite, quoi.
Parce que donc toi l'ARDIC donne l'impression que eux affirment que si t'es steinérien, tu auras une forme d'immunité liée à ta pratique spirituelle, c'est
Voilà,
ça?
c'est ça.
Ok, très bien. Alors après le point suivant, c'est ainsi qu'il existe une certaine forme de bacille porteur de maladies infectieuses provenant des mensonges de l'humanité.
Voilà. Alors ça, c'est assez intéressant aussi. Donc, ce que je sais, que j'ai appris par les cours et aussi que j'ai vu en lisant plusieurs publications, c'est qu'en fait, on a un très grand nombre de virus, de bactéries et puis d'autres agents responsables de maladies infectieuses, parce qu'il n'y a pas que les virus et les bactéries, hein, il y a d'autres parasites, il y a des micro-organismes, etc. En fait, ils existaient déjà au tout début de l'apparition de notre espèce dans l'histoire de l'évolution, voire même avant l'apparition de la lignée humaine. Donc c'est faux. Par exemple, le bacille de Koch qui est responsable de la tuberculose, il est né dans la corne de l'Afrique et il infectait déjà les premiers individus d'Homo sapiens il y a entre 40 et 70 000 ans, à une époque où le langage et donc par extension le mensonge n'existaient pas encore. Donc les mensonges de l'humanité, ben, même avant qu'ils existent, on avait déjà des maladies infectieuses. Si je peux citer un autre exemple, le parasite unicellulaire qui est responsable de la malaria en Afrique, il descend d'un ancêtre qui infectait les oiseaux et il pourrait avoir été transmis il y a plus de 5 millions d'années avant la séparation dans l'arbre de l'évolution entre la lignée humaine, pardon, et celle des chimpanzés. Et si je devais citer un exemple de virus, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, la famille qu'on appelle des hantavirus, elle pourrait carrément remonter jusqu'à 2 millions d'années. Donc là encore, c'est avant que l'humain naisse dans l'histoire de l'évolution.
Ok, très bien. Et après, ils nous disent 1720 dernière grande pandémie de peste, 1820 pandémie de choléra, 1920 grippe espagnole, l'expansion des épidémies présente un facteur temporel intéressant.
Oui, voilà, c'est ça. Donc là, ils fondent une théorie sur laquelle il y aurait des grandes pandémies qui touchent l'humanité à chaque siècle, en l'année 20 du siècle en question. Alors pour moi, ça, c'est clairement du cherry picking. Donc c'est le fait de prendre seulement les données qui vont dans le sens de la théorie que l'on défend et ils omettent, alors volontairement ou pas, je ne sais pas, d'autres épidémies qui ont aussi touché l'humanité et qui ont aussi été importantes, comme ben, par exemple la grippe de Hong Kong qui a eu lieu en 1968 et qui a quand même fait 1 million de morts. On peut citer aussi le sida de la fin des années 70. On peut citer le premier coronavirus responsable d'un syndrome respiratoire de 2003 et 2004 et son cousin du début de la précédente décennie. Il y a aussi la vache folle dans les années 20, la grippe porcine, la grippe aviaire, Ebola. Enfin, la liste est très longue. Quoi. Ça ne se résume pas seulement à chaque début de deuxième décennie, tous les siècles. Donc, pour moi, c'est quand même une omission importante. Quoi.
Oui, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai eu l'impression de voir passer effectivement des choses dans ce style-là sur Internet avec via des mèmes, où les gens évidemment, bah, fouet, comme la dernière grande épidémie, pandémie qu'on a en tête avec c'est 1920, alors voilà, 1920, 2020, enfin, ça sort facilement dans la mémoire, mais c'est vrai que ouais, ça, quand on n'est pas un expert et qu'on se rappelle pas des autres dates, forcément, c'est. Mais ah oui, c'est vrai, oui, je suppose qu'on ne sait pas qui a écrit l'article en question, la Béatrix Achtel, c'est l'auteur, mais.
Oui, c'est ça. Donc on a effectivement le nom de l'auteur, mais je ne sais pas du tout
Oui,
qu'est-ce qu'elle est.
c'est ça, quelle qualification elle a pour où elle va chercher ce genre de choses, quoi. Très bien. Ok. Alors après, le passage qui t'intéressait, c'est qu'ils expliquent que les maladies sont le résultat des souffrances imposées par l'homme aux animaux.
Voilà, donc ça c'est un peu le cœur de la théorie qui est développée dans tout cet article en fait. Sauf que bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour savoir que les maladies existaient déjà quand l'homme devait tuer les animaux seulement pour manger et survivre et pas et bien avant que l'élevage industriel par exemple comme aujourd'hui existe quoi. Donc ça me paraît assez fallacieux. Et puis ils disent ensuite que les douleurs et les souffrances des animaux vivront dans l'homme et se développeront en lui sous forme de parasites, notamment, je cite, lorsque Jupiter aura remplacé la Terre. Bon, ça, je laisse de côté. Je préfère pas discuter toutes les théories purement anthroposophiques. Mais donc, ce qui nous intéresse là, c'est ce que je trouve intéressant dans cette phrase quand ils disent que donc les douleurs et les souffrances vivront dans l'homme et se développeront en lui sous forme de parasites, c'est que en employant le mot parasite, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais l'auteur quelque part se protège un peu parce que parasite, ça permet d'englober l'entièreté des agents pathogènes, effectivement. Que ce soit un virus ou une bactérie ou un autre micro-organisme, s'il cause une maladie, en général, on appellera ça un parasite. Mais quid alors des autres types de maladies qui ne sont pas causées par des parasites, comme les maladies auto-immunes ou les cancers? Est-ce que ce serait aussi le résultat des douleurs et souffrances causées par les animaux? Je ne vois pas très bien du coup comment ça se matérialiserait. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui développe et là encore, bah, ça me paraît un peu une grosse omission, quoi. Si c'était cette théorie pourrait peut-être un peu plus tenir si l'entièreté des maladies qui touchaient les humains était causée par des agents pathogènes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Mais juste pour la phrase précédente, là, les maladies sont le résultat des souffrances imposées par l'homme aux animaux. Je suppose que s'ils font peut-être référence à l'idée que la perte de la biomasse tend à favoriser la propagation des virus, mais simplement ils font une généralisation trop abusive à partir de là,
Voilà, c'est
quoi.
ça. C'est ça. Parce que, effectivement, moi aussi, en lisant ça, je me suis dit, quelque part, oui, ça repose sur quelque chose de vrai, comme tu viens de le dire aussi, le fait que, bah, qu'il y ait des animaux sauvages qui se retrouvent sur des marchés, notre mode de consommation, de voyage après, qui permet l'expansion des épidémies. Donc, quelque part, ça pourrait reposer sur quelque chose de factuel, mais la suite de ce postulat, la façon dont il le développe, finalement, ça a pas beaucoup de fondement.
Et le dernier paragraphe qui nous intéresse, il dit, là où les êtres parasitaires se montrent, ils sont un symptôme de l'attaque d'Ahriman dans le monde. Les liens de l'homme à Ahriman sont nourris par une mentalité matérialiste ou des états de peur purement égoïste.
Oui, alors bon, Ahriman, je ne connaissais pas du tout, je suis allé vite fait me renseigner tout à l'heure, et ça dit que c'est donc, selon les anthroposophes, Ahriman est l'une des deux entités avec Lucifer qui s'oppose à l'évolution de l'humanité, mais qui la rend aussi possible. Et donc Steiner, lui, il identifiait Ahriman à Satan, qui est bien distinct de Lucifer, donc ça c'est encore autre chose. Et Ahriman serait donc l'être qui fait de l'homme un être terrestre assujetti à la matière. Donc bon, ça c'est. Voilà, je sais pas, c'est purement de la doctrine, quoi. C'est basé sur rien de très tangible. En tout cas, ce que je sais, c'est que il est largement reconnu chez les écologistes. Quand je dis écologiste, je parle des scientifiques écologistes, que dans tout écosystème, entre guillemets, en bonne santé, il y a des parasites et que les parasites, ça existe depuis des centaines de millions d'années sur notre planète. Par exemple, Les dinosaures, ils avaient déjà des sortes de poux primitifs dans leurs plumes, parce que oui, les dinosaures avaient aussi des plumes. Il y a des publications qui l'ont montré par des preuves archéologiques notamment, paléontologiques plutôt. Et puis aussi, c'est vrai que le mot parasite, dans l'imaginaire collectif et dans le langage populaire, on voit ça comme un organisme qui a un effet plutôt délétère. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte en biologie, en écologie, c'est que les parasites jouent aussi un grand rôle, bah, par exemple, dans le recyclage de la matière organique et minérale, donc dans tous les écosystèmes pour que les déchets, entre guillemets, puissent être recyclés. Aussi dans l'évolution, parce que, ils permettent des transferts de gènes, ils permettent de jouer aussi la. Pardon, ils sont un des vecteurs de la sélection naturelle. Et puis, ils permettent aussi le maintien de la coexistence entre des espèces en compétition au sein d'écosystèmes, etc., etc. Donc, les parasites, ils sont loin de jouer simplement un rôle délétère et négatif sur les organismes, en fait. Donc, à partir du moment où, je suppose, dans l'imaginaire collectif et donc dans les anthroposophes, si on prend le mot parasite comme quelque chose de négatif, ça peut servir à justifier cette théorie-là. Mais en vrai, comme on vient de le voir, un parasite, ça va beaucoup plus loin que ça.
Oui, bah, d'ailleurs, on avait parlé du fait, enfin, puisque tu mentionnais le fait que les dinosaures aient des plumes, on en a parlé sous le podcast. J'ai été rechercher la référence pour ceux que ça intéresse. Je pense, hein, de mémoire, ça doit être dans l'épisode 267 qui s'appelle Jurassic World déplumé avec Julien Bolloa, qui est un paléontologue que j'ai interviewé plusieurs fois, et on discute du problème du fait que les dinosaures de Jurassic Park n'ont toujours pas de plumes.
Ah oui, c'est vrai.
Depuis toutes ces années, il est plus que temps qu'ils en mettent. Ouais, effectivement, non, on discute des différentes preuves qu'il y avait, enfin, éléments empiriques pour montrer que les dinosaures avaient des plumes. Et c'est pour ça que dans Zaquezoé que je fais, on met toujours des plumes aux dinosaures. On a un T-Rex avec des plumes dans un des deux volumes, je pense, si mes souvenirs sont bons. Voilà, mais ce que j'avais envie de dire, c'est que tu as eu du courage d'essayer de lire un texte d'anthroposophie. C'est vrai que
Oui, bon,
c'est.
après, je pour à ma décharge, il faisait que 4 pages celui-là, donc c'était pas non plus très.
Oh, mais quand même, essayer de déchiffrer l'étrange langage. Pour moi, en fait, un des problèmes qu'il y a avec l'anthroposophie, c'est que, voilà, on a des contre-apologistes, donc des athées qui maîtrisent bien la théologie chrétienne, mais le néo-occultisme, il y a forcément peu de gens qui font l'effort de devenir des
Absolument.
experts, surtout qu'il y a différentes doctrines. L'anthroposophie, il y a la théosophie, c'est vraiment un puits sans fond. Enfin, il y a des universitaires qui s'intéressent à ça aux États-Unis, il y a des spécialistes quand même de ce genre de choses, mais chez nous, enfin, en tout cas, s'il y a des universitaires qui nous écoutent et qui sont des spécialistes de la culture ésotérique et néo-occultiste, il faut me contacter, je les interviewerai. Mais nous, c'est vrai qu'arriver à rentrer dans cette littérature, parce que quand je dis que j'ai lu des livres, ouais, j'avais lu un livre sur la vie de Steiner où il y avait certaines des prétentions paranormales qu'il avait. Puis j'avais acheté un de ses livres, mais ces livres, c'est encore pire en termes de prose que ce que tu as lu aujourd'hui. Donc c'est tu enfin je sais pas, c'est il
Tout à
faut.
fait. Ben c'est un, ben, par exemple, certains passages qu'on a cités aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile parfois juste de comprendre, genre quand on disait une origine semblable à celle de l'actuel matérialisme de l'entendement sur le plan de l'âme et de l'esprit. Pour moi, ça a tout à fait aucun sens, quoi. Donc, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc le PDF de ce numéro de revue, il est en deux langues, parce que la société anthroposophe, donc, est suisse et écrite en allemand à la base. Et donc, ça pourrait peut-être être intéressant aussi, s'il y a des germanophones parmi celles et ceux qui nous écoutent, d'essayer de lire l'article en allemand, parce que peut-être que qu'en allemand, il y a certaines choses qui sont plus compréhensible, je ne sais pas, par rapport à la traduction française. Je sais qu'en tout cas, par exemple, des fois en philosophie ou en science, il y a certains trucs, quand c'est écrit en allemand, ce n'est pas forcément facile de traduire vraiment de façon très rigoureuse en français. Donc, peut-être qu'en lisant l'article en allemand, il y aura d'autres choses qui pourront surgir, je ne sais pas.
Ben voilà, ton article sera sur le blog du comité para avec tu as mis des références vers les différentes notions que tu abordes, dont tu as discuté aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient
Absolument.
aller plus loin, ouais. Super, parfait, très bien. Oui, c'est vrai, juste pour te demander au cas où, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter qu'on n'aurait pas couvert ou...
Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour.
Ta grande-tante sera contente de ta lecture de
Tout à
l'article.
fait, elle était assez révoltée en lisant ça. Elle a dit, j'aimerais qu'on entende un peu plus parler de ce genre de choses qui circulent. et qui ne sont pas vraiment débattues avec des spécialistes. Donc,
Oui, c'est vrai que oui, c'est marrant, la popularité des écoles anthroposophiques est assez les gens, enfin surtout que les gens fassent pas le lien. Même dans les en message privé, je reçois des messages en disant des gens qui me disent oh, je suis relativement sceptique et puis j'ai mis mes enfants à l'école d'anthroposophie. Et il y a souvent l'argument oui, mais c'est des bonnes écoles, donc enfin, elles
oui, c'est
obtiennent de bons
ça.
résultats, mais
Ben elle, par exemple, ce qui lui avait. Je me souviens, la dernière fois qu'on s'était vu, elle m'avait montré une capture d'écran sur le site de l'école en question où elle avait mis ses enfants qui ont été retirés depuis. Quand il détaillait les programmes, il disait, par exemple, qu'en géologie, ils allaient voir les différentes roches et puis ils allaient étudier la puissance du calcaire et puis l'égoïsme du cristal, enfin des. Peut-être que j'emploie pas les bons mots, mais en gros, c'était ça, quoi. Ils associent à chaque roche comme une attitude humaine ou un sentiment, quoi. C'était ce genre de truc. Et puis, c'était écrit noir sur blanc qu'ils allaient enseigner aux enfants l'Atlantide aussi, pourquoi ça existait, ce genre de truc. Et bon, évidemment, depuis là, je sais pas si c'est à cause d'elle ou quoi, mais le site a fait peau neuve et puis on peut plus trouver de références très explicites à tout ça. Mais enfin, j'avais jamais vu ça sur un programme scolaire, quoi. Donc, ça m'avait assez choqué, ouais.
C'est clair que oui, ils essayent comment dire, d'être un peu discrets sur le genre de choses qu'ils enseignent, mais il y a quand même de temps en temps, si on fait attention, des écoles qui postent des photos ou des choses et on se dit waouh quoi, rien que si on voit des choses à l'arrière d'un tableau ou sur Twitter maintenant, c'est difficile pour eux de vraiment dissimuler ça. Si
Oui.
avant, évidemment, Internet c'était plus facile, mais une fois que les gens deviennent attentifs, c'est facile de faire des captures d'écran et de voir vraiment ce qu'ils enseignent pour de vrai dans ces écoles.
Bon,
Écoute,
en tout cas,
super.
j'espère que j'ai pas mis ton podcast sous le joug d'un éventuel procès en diffamation pour tout ce qu'on vient de dire, mais c'est pour ça que j'essaie de rester dans le factuel le plus possible, et de ne pas discuter des théories qui ne touchaient pas à ce dont il parlait au niveau des virus et des bacilles ici, pour nous limiter strictement à ça.
Ouais, avec le podcast, on court toujours le risque, de toute façon, quel que soit le sujet. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si les gens veulent te suivre sur Internet, il y a des endroits où on peut te trouver, ou tu as un compte Twitter, ou...
Twitter, non, pas encore. J'ai pour projet de lancer une chaîne YouTube qui va vulgariser la microbiologie, mais entrant bientôt en quatrième année de thèse, donc en dernière, je vais
Ah
voir
ouais.
si j'ai le temps de faire ça dans l'année qui vient, sinon ce sera pour plus tard. En attendant, si vous tapez mon nom dans Google et que vous tapez ULB juste à côté, vous pourrez tomber sur ma page. Sur la page du site de mon laboratoire, j'ai un email. Je réponds très vite aux emails, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir.
Oui, donc c'était Mathias Bonal, pour ceux qui chercheraient sur
Absolument.
ULB. Super, écoute, eh ben, à une prochaine fois, on se verra certainement à ces petits copains, hein, ces quatre, quand on pourra de nouveau être en physique et
Vivement, vivement.
puis en virtuel. Allez, on va prendre congé des auditeurs. Encore merci, à une prochaine.
Merci Jean-Michel et merci à toutes celles et ceux qui auront écouté.
C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. À une prochaine fois. Bye bye.